With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cineau Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous arrive comme une flèche sous la délicate forme d'une extra ball, quelques minutes condensées et intenses autour d'une sortie, Netflix en l'occurrence, puisqu'on va s'intéresser à Shaft, retour à la télé du célèbre personnage dont Stéphane Moïsakis va nous causer. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Cineau Ciné extra ball spécial Shaft et c'est parti.
Fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Shaft, donc, c'est un peu la grande réunion de famille, puisque ce cinquième film, Stéphane, il met en scène le célèbre héros de la Blaxploitation qui nous présente donc Shaft Junior, qui est joué là par Jesse Usher, le fiston de John Shaft, deuxième du nom, qui est joué par Samuel L. Jackson, qui reprend son rôle du précédent film qui était signé John Singleton à l'époque, et qui, donc lui, Samuel Jackson, est le neveu du John Shaft originel, qui est incarné par Richard Roundtree. C'est ça, hein ?
Alors, c'est ça, mais pas tout à fait ça, parce qu'ils ont changé la mythologie dans celui-là. Alors, vraiment, en une phrase, Richard Roundtree, finalement, c'est son père.
Ah, du coup, finalement, c'est plus son oncle.
Alors, voilà. Alors, il le dit dans une phrase, il se faisait passer pour mon oncle. Voilà. Donc, ils se sont dit, c'était complètement débile d'en faire un oncle
c'est
à l'époque. Donc,
bizarre.
En fait, on va en faire le père, on va assumer le truc, l'affiliation, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est, faut être honnête, hein, c'est pas un très grand film, déjà, parce que c'est réalisé par Tim Story. Mmh. Tim Story, c'est le réalisateur des 4 Fantastiques des années 2000, les deux. C'est le réalisateur, là, récemment, c'est un de ces réalisateurs qui est un peu, comment dire, passe-partout, qui arrive à renaître une fois de temps en temps de ses cendres parce qu'il a un succès au box-office. Là, récemment, c'était Mise à l'épreuve, en fait, une comédie avec Kevin Hart et Ice Cube, si je dis pas de bêtises, qui a été un carton aux États-Unis. En France, c'est sorti complètement inaperçu.
Sous le radar, ouais.
Voilà, c'est un buddy movie, vraiment, on dirait un truc des années 80, mais remis au goût du jour, quoi. Et voilà.
Kevin Hart et Ice Cube, c'est bien ça.
Et en fait, Tim Story, c'est surtout un réalisateur de comédie, parce qu'il avait fait beaucoup de comédies déjà quand il faisait Les 4 Fantastiques, beaucoup de comédies, donc là, c'est censé être un buddy movie, Monsieur à l'épreuve, mais c'est surtout une comédie. Et Shaft, qui en général n'est pas une comédie, il en fait une espèce de comédie, quoi. Et donc, il y a un peu d'action, un peu de polar, hein. c'est un film classé R, hein, malgré tout. Mais c'est surtout un film complètement, alors déjà anachronique dans la notion même de faire revivre le personnage de Shaft, puisque ça avait été un succès modeste à l'époque, en 2000, le reboot en fait avec Samuel Jackson.
Le John Singleton.
Voilà, et ça arrive là 19 ans après.
Ouais.
Je pense que le studio le savait parce que c'est un film, alors c'est pas une prod Netflix à proprement parler, mais c'est un film qui a été racheté.
Oui.
Enfin, récupéré par Netflix dans le monde entier.
C'est ces films que Netflix rattrape au dernier moment, alors qu'ils sont en train de patater complètement du côté du studio. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et surtout, en fait, en gros, il y a encore une distinction. C'est pas comme, par exemple, c'est un peu comme Annihilation ou récemment une comédie qui s'appelle Booksmart, où effectivement le film sort aux États-Unis. Il y a un parc de salles qui le sort. C'est le studio qui sort. Puis après, ils le bazardent dans le reste du monde parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas faire d'entrée avec ça. Et si c'est pas ça, c'est direct ou VOD ou en DVD, quoi. Donc autant balancer ça sur Netflix, c'est le plus gros réseau, quoi. Voilà. Alors effectivement, donc le problème, l'intérêt du film en fait est assez étrange parce que fondamentalement, à part l'idée même en fait de créer une nouvelle filiation avec un jeune personnage, donc éventuellement relancer la franchise qui ne sera pas relancée vu que ça a été un bide, le film a en termes d'intrigue zéro intérêt. C'est vraiment un film ultra générique. C'est le Shaft Junior qui s'associe avec Shaft 2 qui finalement va chercher son père en fait pour endiguer une espèce de trafic de drogue. Voilà. Enfin, donc c'est vraiment plus générique.
Le meurtre de son copain.
Voilà. Mais c'est vraiment c'est ce qui est lié, quoi. Et c'est vraiment le film de film policier générique des années 80, le plus basique possible. Ce qui globalement c'est un peu ce qu'était aussi le premier Shaft dans l'absolu. Hein. C'est-à-dire c'est l'idée même du premier Shaft. C'était de prendre un polar comme on en faisait à l'époque, mais en fait de mettre au centre du film un personnage noir, afro-américain, et en fait l'assumer en fait en tant que héros, ce qui était complètement nouveau à l'époque, hein, dans les années 70, quoi. Donc le film avait déjà cet intérêt à la fois...
Ça, c'était Les Nuits Rouges de Harlem.
Ouais, Les Nuits Rouges de Harlem, voilà, ouais. De Gordon Parks. Qui avait, en fait, ce film avait cet intérêt. Il avait aussi la patine des films des années 70, hein, donc il était assez cru, assez rude. Ça a été un très gros carton à l'époque. Il y a aussi, évidemment, le score de Isaac Hayes, qui était incroyable, hein, pour lequel il a gagné l'Oscar, d'ailleurs, et qui est vraiment formidable. Et voilà, le film, après, ça restait un polar. Finalement, quand on le regarde aujourd'hui, ça reste un polar assez
mais
qu'il faut vraiment recontextualiser pour prendre la teneur en fait de l'importance qu'il a eu dans l'histoire du cinéma, et notamment dans la notion en fait d'imposer un personnage mythologique d'héros afro-américain en fait aux yeux du public, et y compris du public blanc finalement, parce que c'est le public noir, on va dire, t'es plus ou moins acquis à la cause du film, tu vois. Donc là, c'est vraiment l'idée de qu'il y a un tel carton, c'est qu'aussi le public blanc y allait, quoi, et l'acceptait, quoi. Mais c'était vraiment les prémices de la Blaxploitation. Ça a créé effectivement une franchise dans les années 70, même une série télé de piètre qualité. Shaft, Big Score, c'était le deuxième film, c'était vraiment c'était vraiment pas terrible. Shaft in Africa, c'était un peu plus rigolo.
Shaft contre les trafiquants d'hommes.
Voilà, avec notamment, il y avait aussi la musique.
Là,
il
n'y
avait plus Isaac Hayes, je crois, mais il y avait les Four Tops. Et c'était assez... le film était assez sympa. Enfin, c'était un peu mieux, je trouve, que le deuxième, qui était vraiment, pour le coup, une suite générique, basique. Et la musique, en fait, aidait aussi, encore une fois. Voilà. Là, la problématique, en fait, de celui-là, c'est que... Donc, moi, je trouve que, voilà, si on doit sortir un petit mot, en tout cas, pour continuer la boucle sur le Shaft de Singleton, moi, je sais que c'est un film qui m'avait énormément déçu à l'époque. J'en attendais pas énormément, parce que j'étais pas un grand fan de Singleton dans l'absolu, mais j'avais vraiment envie de croire, en fait, dans Samuel Jackson, dans le personnage. Il le faisait plus ou moins, mais ce qui était assez intéressant, c'était que dans les notions en fait de ce qu'était la Blaxploitation, la façon de recréer la Blaxploitation, il y a deux éléments en fait assez intéressants. C'est que tu avais le personnage de Christian Bale qui jouait un vrai raciste, et c'était intéressant de le voir jouer ce type de rôle-là. En fait, il avait une espèce de ressuscité de son personnage de American Psycho à l'époque, et il y avait surtout le score de David Arnold qui reprenait. Qui lui avait conscience complètement de l'importance en fait du score de Isaac Hayes, et qui le reprenait de manière orchestrale, et c'était vraiment un travail formidable, quoi. Je vous le conseille si vous aimez ce genre de musique, et voilà. Et donc revenir sur le Shaft aujourd'hui, c'est essayer de rattraper un peu, s'accrocher aux branches, parce qu'il y a un espèce de revival Blaxploitation, hein. L'an dernier, il y a eu un Superfly qui est pas du tout sorti chez nous, enfin peut-être en VOD, produit par Joel Silver qui à la sauce Roméo doit mourir, façon hip-hop actuelle, vraiment dégueulasse, c'est d'une laideur pas possible. Et je crois qu'ils essayent de remonter quelques autres projets comme ça. Je pense que ça va être tué dans l'œuf en fait avec les beats de ces films-là. Et l'autre problème, c'est qu'en fait, c'est un film qui est un petit peu aussi anachronique au jour d'aujourd'hui, parce que, en fait, vu ce qui se fait aujourd'hui, parce que en gros, on est dans un... Enfin, c'est un film qu'on lui a beaucoup reproché, en fait, d'être pas très woke, comme on dit, parce que il y a beaucoup de blagues homophobes, le fils de Shaft passe pour une lopette aux yeux de son père, enfin voilà, donc il y a tout un truc comme ça. Maintenant, c'est assez... Enfin, le problème, c'est que je pense que les gens focalisent là-dessus parce que c'est quasiment le seul sel éventuel qu'il pourrait y avoir dans le film pour lui donner une raison d'exister. C'est vraiment ce lien filial, quoi. Et en fait, ce lien familial. Et le truc, c'est que finalement, ça va pas très loin, en fait. Hein. Y a pas plus de blagues sexistes ou de comment dire, de comportements comme ça que dans un épisode des Sopranos de base, j'ai envie de dire. Et ça fait partie, on va dire, du folklore en fait du cinéma policier, hein, d'une certaine manière, surtout les cinémas un peu street, et deux, c'est un inoffensif vraiment bas niveau, quoi. Alors qu'on soit clair, hein, c'est complètement con, c'est complètement beauf, c'est un film des années 80, le pire du cinéma des années 80 remis au goût du jour actuel, mais c'est dans cette logique là c'est totalement inoffensif parce que il y a pas de quoi se relever et hurler au scandale, pour les petits plaisirs, effectivement, il y a Richard Rountree qui sort cette phrase où il dit j'ai 80 balais, j'ai l'air plus jeune que toi qui en a 60, en disant ça à Samuel Jackson, et c'est pas faux. On a l'impression qu'il est quand même assez vif pour son âge. Il a le charisme, il a toujours le même charisme en fait par rapport au personnage de l'époque quoi. Bon après c'est vraiment une apparition tardive hein, dans le film, il arrive à 20 minutes de la fin. Voilà, c'est censé être une surprise qu'ils ont complètement éventée dans les bandes annonces pour ceux qui s'intéressent au projet quoi. Et après que dire, bah voilà, c'est un film de Team Story quoi. Donc inoffensif de bout en bout, sans grand intérêt. Très facile à regarder sur Netflix effectivement comme ça passe, mais très très facile à oublier pour autant. Et d'ailleurs, même si le score par exemple là, parce que encore une fois ça a une part importante quand même la musique dans Shaft, le score de là c'est Christopher Lennert est plutôt de qualité, il a lui aussi un rapport comment dire référentiel à ce que Isaac Hayes avait fait. Ça reste finalement mis en retrait par rapport à la façon dont ça pouvait être au moins utilisé dans le film de Singleton quoi. Donc voilà, moi pour moi c'est un ça se sentait hein, mais c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, mais c'était faire cet extra, c'était une manière un peu de reparler de cette franchise là en fait d'origine voilà, et puis un petit peu par détour comme ça de la Blaxploitation, parce qu'il y a quand même quelques fleurons du genre en fait voilà, je pense évidemment à Coffey, les films de Jack Hill, Foxy Brown et par exemple Truck Turner, ce genre de choses en fait qui sont des vrais polars musclés du cinéma d'exploitation voilà qui envoie bien quoi. Et voilà, moi c'est un genre que j'aime beaucoup, donc forcément j'étais hyper curieux de voir ce qu'ils en allaient faire, tout en sachant que bon, c'est plus une comédie qu'un cinéma que du polar à proprement parler quoi.
S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent découvrir un peu le début de Shaft, donc les premiers, les trois premiers notamment, ils sont faciles à trouver, ils sont édités,
alors je crois qu'il y a un Blu-ray américain pour le premier Shaft, des DVD ça c'est sûr, ça se trouve, il y a beaucoup de films qui sont sortis en Blaxploitation de manière générale hein, en DVD. Un peu plus en Blu-ray maintenant aux États-Unis, mais en fait ça reste, c'est à l'époque en fait, en tout cas quand Tarantino a fait Jackie Brown et que c'était censé être connecté à cet univers, il y a eu beaucoup de films qui étaient ressortis, il y avait une espèce de revival, mais en fait là maintenant c'est un peu passé de mode et voilà, je pense qu'en France Shaft, en tout cas en Blu-ray ça se trouve pas, j'ai pas vu passer ça, enfin Netflix aurait pu en profiter pour sortir les films, mais pas du tout, je crois qu'ils sont pas dessus. Voilà, je pense que c'est très contextuel, hein, encore une fois, c'est pour comprendre l'importance de ces films-là, il faut vraiment les recontextualiser dans les années 70 et dans la situation sociopolitique de l'époque en fait, aux États-Unis et cet énorme besoin d'émancipation par la culture aussi en fait, du peuple afro-américain. Donc je pense que ceux qui aiment les polars de cette époque-là, en fait, oui, ils peuvent jeter un œil là-dessus. Voilà. Maintenant, oui, c'est devenu de niche. Voilà. Donc c'est un peu plus difficile à trouver, mais bon, il y a des copies en Blu-ray, des trucs qui traînent par-ci par-là quoi.
Shaft, le dernier, il est à découvrir en tout cas pour lui sur Netflix, c'est sûr, on le trouvera, notre temps est écoulé.
Ouais,
merci Stéphane, merci Solène à la technique, binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.